Bonjour, nous accompagnons dans la rue Abderrazak El Albani, professeur à l'université de Poitiers, invité à Nantes dans le cadre de la 26e semaine de l'astronomie. Il est intervenu sur le thème « Une révolution dans l'émergence de la vie cellulaire ».
Votre découverte de fossiles avec votre équipe, c'était un peu un hasard ou c'était prémédité ?
Non, il n'y a rien de prémédité. On a financé avec nos propres... Enfin, propres. On avait des petites contrats de prestation, des choses comme ça. Il n'y avait pas de crédit dédié à l'exploration pour trouver des fossiles de cet âge-là. Hein. C'était un peu de hasard, un peu de curiosité, un peu tout ça. Mais c'était surtout une volonté de faire de la recherche sans contrainte. Quoi.
Ce qui veut dire que finalement, on peut encore découvrir des choses sans avoir un programme déterminé.
On peut, heureusement. Mais c'est beaucoup plus difficile sans moyens, c'est clair. C'est très très difficile sans moyens.
Vous étiez allé pourquoi ?
Pour faire de la géologie. Moi, je suis un spécialiste, entre guillemets, enfin, je suis spécialiste des paléo-environnements. Donc, essayer de travailler sur des roches sédimentaires qui sont des excellentes boîtes noires qui conservent des informations par rapport à l'histoire de la Terre, par rapport à l'histoire de la vie. Et donc, en fait, moi, j'étais surtout pour déterminer les conditions paléo-environnementales de notre planète il y a 2 milliards d'années et voir un petit peu le niveau marin, comment il a évolué, conditions de sédimentation, etc. etc. Donc, c'était pour ça. Et après, tout à fait par hasard, on voit des choses qui sont là et puis on s'intéresse, on a une curiosité. Et puis, à partir de là, ça démarre. Mais s'il n'y a pas de curiosité derrière, la chance ne suffira pas pour mener à bien le projet.
Et ces fossiles sont de quelle taille ?
Oh, il y a de toutes les tailles. Hein. C'est du centimètre à jusqu'à 23 centimètres, avec des tailles variées. On a des formes variées. On a plus de 500 spécimens maintenant. Donc, c'est des fossiles qui sont caractérisés en 3D, en 3 dimensions, parce que on a un scanner, ce qu'on appelle un microtomographe, l'équivalent d'un scanner médical, mais beaucoup plus puissant, qui permet de les diagnostiquer en 3D, en 3 dimensions. Donc ça nous permet de les voir en 3 dimensions. Bon, c'est ce que je montrerai lors de la conférence. On voit le détail. Donc il montre vraiment une belle biodiversité quoi, dans un écosystème marin, qui n'est pas très profond. Hein. On est peut-être à 40, 50, 60 mètres d'eau, dans un système oxygéné, riche en matière organique, tout simplement.
Et alors, ça révolutionne ?
Ça révolutionne. Ça permet de revenir sur des idées préconçues. Hein. Ça revient sur des dogmes qui ont été complètement figés sur une histoire. 600 millions d'années, l'émergence de la vie multicellulaire complexe. Et puis ça continue après. Mais en fait, les tentatives pour la mise en place d'une vie complexe a démarré déjà il y a plus de 2 milliards d'années, 2 milliards 100 millions d'années. Donc il y a eu des tentatives, des succès, des échecs, avant d'arriver à nous, quoi, c'est ce que je veux dire.
Le passage de l'être unicellulaire à l'être pluricellulaire, ça induit quelque chose qui serait comme une forme d'intelligence ?
C'est une forme, je dirais, de coopération cellulaire entre les cellules. À partir d'un certain moment, les cellules commencent à voir que dans le milieu, il y a l'arrivage d'un certain nombre d'éléments nouveaux qui sont... absolument au départ abstrait pour les cellules, notamment l'oxygène, et puis il y a des éléments nutritifs qui vont arriver, et bien les cellules commencent à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? On a des éléments nouveaux pour nous, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis ils commencent à coopérer. Et la coopération commence à générer des formes, des structures complexes, et puis le système devient de plus en plus multicellulaire, de plus en plus organisé. Alors, bien sûr, on n'a pas d'idée sur ce qui s'est passé avant 2 milliards 100, parce que, d'abord, l'oxygène n'était pas assez important dans l'atmosphère. Mais on a cette fenêtre sur l'histoire de la vie qui est bien conservée et qui nous permet de comprendre un petit peu, à un instant T, l'existence de cette multicellularité. Mais de dire et de mettre le doigt sur un point, dire, c'est là où on voit les premières étapes. Ça, c'est après, on verra ce que l'avenir... Mais il est évident que dans le site gabonais sur lequel on travaille, on a très clairement des formes multicellulaires, organisées, complexes, diversifiées. Donc c'est fait. On a 200, 300 millions d'années d'augmentation d'oxygène derrière. Donc la mise en place de la multicellularité est déjà acquise à ce moment-là. Mais il aura fallu quelques dizaines, voire centaines de millions d'années pour que les cellules arrivent à cet état-là. Donc oui, c'est une forme d'intelligence pour s'adapter par rapport au changement de milieu, changement de conditions, avec l'arrivée d'oxygène et d'éléments nutritifs, chose qui n'existait pas trop dans le milieu avant 2100.
Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un géologue qui nous enseigne sur le vivant.
C'est le rôle du géologue. Le géologue, il a comme outil de travail son marteau. Je caricature, hein, mais aussi le sens de l'observation. Et puis après, les techniques modernes qu'on utilise maintenant pour travailler, les techniques de pointe. Et dans une roche, la roche, il n'y a pas seulement, entre guillemets, ce qu'on appelle vulgairement le caillou. Ce n'est pas seulement le caillou, mais c'est un ensemble. Hein, c'est un ensemble d'éléments sédimentaires, mais aussi de vie. Parce que la vie, on dirait, c'est le cercueil, hein, entre guillemets, de ces voici, c'est la roche. Hein, donc c'est l'encaissant. Et grâce à cet encaissant, on arrive à protéger, à fossiliser hein, ces fossiles-là. Hein, et puis, ils peuvent traverser les temps jusqu'à 2 milliards, 100 millions d'années. Voilà. Donc là, c'est vraiment une chance d'avoir un site aussi bien préservé.
Par rapport au réfrigérateur, ça, c'est très performant pour conserver.
Ah oui, oui. La conservation, elle est exceptionnelle. C'est le bassin le mieux conservé au monde de cet âge-là. Quand on compare avec les autres bassins sédimentaires du même âge, c'est le mieux conservé. Et je pense que c'est ça, le mérite revient à ça, hein, revient au fait que les sédiments sont bien conservés. Voilà. Et cette conservation permet à ces fossiles de rester là, d'échapper à toutes les contraintes liées à tout ce qui peut une roche peut subir comme transformation. Et du coup, c'est quand on est géologue, on a notre outil, c'est-à-dire nos yeux, notre sens d'observation, notre curiosité, on peut éventuellement, très probablement, tomber sur des choses comme ça. Mais il faut passer par l'étape conservation, ça c'est sûr.
Vous avez la connaissance de tous les sites potentiels sur Terre ou on pourrait
tout
en découvrir d'autres?
Un certain nombre, mais je n'ai pas tout visité, hein, parce qu'il y en a pas mal.
Est-ce qu'il y a encore des terres à défricher qu'on ne connaît pas aujourd'hui?
Les terrains de cet âge-là, on connaît un certain nombre, mais c'est vrai que d'autres, on les connaît beaucoup moins bien. Il y a sûrement des choses à faire, et je suis persuadé que dans les années qui viennent, avec les techniques modernes de caractérisation, on va pouvoir trouver des choses, et puis là, cette histoire-là a ouvert une voie. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas devant une roche, elle est très ancienne, donc on n'a aucune chance de contenir des éléments de vie, quoi, des fossiles. Il ne faut pas arriver avec des idées préconçues, avec un dogme inscrit dans une théorie ou une hypothèse, hein, mais il faut arriver avec un esprit ouvert, et puis ce n'est pas impossible de tomber sur des fossiles. L'ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'important dans la science, dans les sciences, mais contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de dogmes quand même dans nos disciplines.
Mais là, vous travaillez sur des choses très concrètes. C'est un peu plus facile peut-être d'arriver avec des arguments.
S'il n'y a pas d'arguments, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. On a des arguments depuis 2008, début 2008, janvier 2008 pour être précis. On accumule des arguments. Ces arguments ont été publiés. Hein. Donc ça a été validé par des publications scientifiques. Et sans argument, on peut pas discuter. Autrement, ça reste, comme disent les Anglais, des believing, c'est des croyances. Hein. Et ça, c'est la science, normalement, elle est pas, c'est pas des croyances, c'est du concret.
Merci à Abderrazak El Albani, professeur à l'Université de Poitiers, pour sa libre participation à ce reportage réalisé à Nantes dans le cadre de la 26e semaine de l'astronomie.
C'est tout frais, vous avez reçu les palmes académiques.
Ah, comment vous le savez?
C'est inscrit sur votre site. Sur
ah bon, ah bon, ah bon. Ils l'ont déjà mis, moi j'ai rien mis, hein. C'est pas moi qui... C'est pas moi, hein. Je suis même pas au courant.
Alors est-ce qu'on nage mieux?
Ah, ça, c'est vrai que c'est... Moi qui n'ai pas un grand nageur, hein, pour rien cacher, je ne sais pas nager, ça donne une certaine légèreté. Non, c'est un honneur. Comme je dis, je partage ça avec l'équipe, hein, pas avec mon équipe, et surtout avec les petites mains, ce qu'on appelle les petites mains, nos techniciens, nos secrétaires, nos gestionnaires qui nous facilitent la vie tous les jours. Hein. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir cette récompense que je partage évidemment avec toutes les personnes qui croient en ce projet, de près ou de loin. Voilà.